Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et puis merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain sublimé et Bertrand Chameroy pour son écran de veille imbibé. Notre invité, c'est l'actrice Charlotte de Turckheim. On lui a fait peur à Bertrand dans le studio pour son livre autobiographique Le dictionnaire de ma vie. Hélène Manarino va tout dresser son portrait inattendu. Il n'en revient pas, Chameroy. Et puis dans Les Indispensables, une artiste qui oscille entre jazz et rock. C'est Eva Rock qui va revenir pour nous en parler. Et puis la mise en lumière des tableaux de Dali, Louise Bernard nous dira tout. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour, faut pas me faire ça, moi je suis cardiaque. Hein.
On sent le gars qui a très très peu dormi.
Pas du tout, je suis en pleine forme.
Allez, allez, c'est l'heure de votre écran de veille. Je précise qu'hier soir vous étiez en duplex en terrasse, je vous ai vu dans C'est à vous, ce qui explique votre petite mine et votre petite voix ce matin.
Eh oui Philippe, mais ça ne m'a pas empêché de suivre les directs des chaînes info. Quelle journée j'ai passé, mes enfants, un emploi du temps aussi chargé que mon haleine. Oh. Les chaînes info donc qui étaient sur le qui-vive pour couvrir cette réouverture des resto et des bars, dispositifs exceptionnels, des potrons minés, comme ici, sur BFM, dès 6h du mat.
Bienvenue si vous nous rejoignez, évidemment émission spéciale consacrée en grande partie à la réouverture des terrasses. Nous étions dans un bar tout à l'heure, nous sommes dans un restaurant, le Père Claude ici. Preuve que l'impatience est immense, voilà, le couvert est déjà mis.
Et oui, les clients n'ont pas mangé avec les doigts. Quand le tout premier duplex de la journée se termine par regarder le couvert est déjà mis, ça augure des directs passionnants. Il l'était, 24h après l'annonce de la liste des Bleus par Didier Deschamps, Christophe Delay a dévoilé l'autre liste que tout le monde attendait.
Lasagne au saumon et épinards. Oh non. La belle bidoche, cœur de faux filet.
Et oui, c'est le grand retour de la belle bidoche, cœur de faux filet. Quel bonheur qu'elle soit titulaire. Alors au-delà de la joie procurée par les images de terrasses briquées, allumées et prêtes à accueillir des clients, cette édition spéciale sur BFM nous a aussi permis de mieux cerner les enjeux économiques et politiques de cette réouverture, car les bonnes questions ont été posées au patron de bar.
Ça fait du bien de revoir les clients.
Oh, pas du tout, c'est une véritable purge. Et oui, si les bars étaient ouverts, les questions, elles, étaient fermées. Et non. Il était difficilement possible d'y répondre par autre chose que oui.
Dominique et Cathy, bonjour à tous les deux, je vous dérange. C'est votre premier café en terrasse,
oui,
donc
en
depuis
terrasse, le... promis,
ça vous fait du bien ?
Pas vraiment. 7 mois de fermeture, c'était trop peu. On aurait bien prolongé une petite année. Non, évidemment, ils auraient répondu ça.
Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup.
Vous attendiez ce moment ?
Eh ben oui, enfin, oui, oui, ils étaient au bout du rouleau, donc évidemment qu'ils attendaient ce moment, comme tout le monde. Et certains n'avaient pas de temps à perdre, il était 9h11, 9h11 du matin, quand soudain...
Comment ça va, Olivia ? Je vois le champagne qui est bientôt... Ça va pas, non, ils sont complètement fous. Olivia, comment ça va ?
Ça va mieux.
Bah tu m'étonnes. Du champagne à 9h du mat, ça te fait voir la vie différemment. Trouble et flou. Il y avait donc d'un côté ceux qui pouvaient trinquer dès le matin et de l'autre les travailleurs qui n'ont retrouvé les terrasses qu'en fin de journée. Et il en fallait du courage pour obtenir sa bière. Beaucoup de patience, comme ici à Lyon.
Il y a une file d'attente devant ce bar de la presqu'île lyonnaise. Certains nous disaient qu'ils sont arrivés une heure. Ils ont dû patienter plus d'une heure avant d'avoir une table pour avoir... un verre.
Voilà, une heure pour une bière. Donc à l'avenir, sachez à Millionnet qu'il est préférable de poser une RTT pour la Happy Hour. Mais de toutes les interventions sur la réouverture, celle que je retiendrai, c'est celle d'Adeline François, toujours sur BFM. Si la résignation était une déclaration, ce serait celle-ci.
Merci Lionel Top, il va falloir donc attendre 2 semaines avant un rendez-vous pour une épilation ou pour un soin, mais on n'est plus à ça près.
Foutu pour foutu,
elle
hein.
Est drôle.
Le maillot attendra. Bonne journée.
Merci,
c'est très drôle.
Bonne journée, merci. Et vous étiez en terrasse hier?
Pas du tout, j'ai bossé moi, qu'est-ce que vous croyez? Bah si,
vous l'avez
évidemment.
Comment? Vous l'avez vu en terrasse?
Non, je l'ai pas vu en terrasse, mais j'imagine très bien ce qu'elle a fait chez elle.
Les
bars des Varrocks sont réputés.
Ouais, c'est ça.
Eva, oui. C'est l'heure de se projeter dans les programmes du soir. Le thème qui se dégage de votre sélection.
Alors l'art qui sublime les corps, les sentiments et les ressentiments. Sur France 2, complément d'enquête propose un excellent sujet au titre évocateur, au nom du père du fisc et de Claude Berry. Mort en 2009, le réalisateur et producteur de cinéma a laissé derrière lui un héritage estimé à environ 85 millions d'euros, voire peut-être plus, et qui comprend notamment un grand nombre d'œuvres d'art, c'était La Passion de Claude Berry. Un héritage objet d'une guerre entre ses deux fils, Thomas Langman et son petit frère Darius, le premier accusant l'autre d'avoir dérobé plusieurs œuvres d'art, en l'occurrence, une guerre fratricide violente. Écoutez respectivement Thomas Langman et la réponse de son frère obtenue par les journalistes via un SMS.
J'ai eu tort de croire que l'intelligence était honnête, j'ai eu tort de croire que Darius le serait. Et voilà, c'est une déception humaine, une trahison, appelez ça comme vous voulez. J'ai pitié d'eux aujourd'hui.
vous devriez plutôt faire un sujet approfondi sur la folie, l'extrême violence, la cupidité, la toxicomanie, la paranoïa, la mythomanie et l'amnésie profonde de Thomas Langman qui ont entraîné toute cette affaire.
Ça, c'est le petit frère.
Ça, c'est le petit frère via un SMS. Alors, au-delà de l'histoire familiale qui est triste, évidemment, cette enquête nous plonge dans les méandres du marché de l'art avec son lot d'intermédiaires, de magouilles, de secrets. Qui a raison, qui a tort dans cette affaire? Le sujet n'a pas la réponse, mais le fisc, lui, la cherche et finira bien par la trouver. Quand on parle d'art, on préfère quand même évoquer le beau et le sublime, comme les corps sculptés de Rodin.
Par ça, elle n'a pas fait d'apéro hier.
Pourquoi le sculpteur a donné de l'importance à la femme et à sa sexualité? Avec vous, il n'est plus l'animal dompté et domestiqué. Une si jolie tête, n'est pas décapitée.
C'est parce que vous pensez encore que le visage est le miroir de nos sentiments. Mais si un torse est bien fait, on est vraiment réussi. Il contient toute la vie à lui tout seul.
France 3 diffuse le film de Jacques Doyon porté par un duo, Vincent Lindon dans la peau de Rodin et Isia Higelin dans celui de Camille Claudel. 10 ans de passion entre ces deux êtres, une histoire d'amour et une histoire de création, tout comme cet autre film que je vous recommande grandement, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. On est en 1770, Marianne qui est peintre de métier, incarnée par Noémie Marlan, est chargée de réaliser le portrait d'Héloïse, joué par Adèle Haenel, séance de pause.
Vous peignez des modèles nus aussi?
Des femmes, oui.
Pourquoi pas des hommes?
Je n'ai pas le droit.
Pourquoi?
Parce que je suis une femme.
C'est une question de pudeur?
Surtout une façon de nous empêcher de faire de la grande peinture. Sans notion de l'anatomie masculine, toute la gamme des grands sujets nous échappe.
Comment faites-vous?
Je le fais en secret. C'est toléré.
Quelle merveille ce film dans des sublimes paysages bretons. Céline Sciamma filme un amour naissant, une tension érotique, un jeu de regard entre ces deux femmes avec en décor une histoire de l'art, 2 heures d'émotion. Donc l'art, c'est sous toutes ses formes ce soir, en documentaire avec complément d'enquête sur France 2 à 23h10 et en film avec Rodin sur France 3, c'est à 23h et Portrait de la jeune fille en feu, c'est sur Ciné Plus Émotion à 20h50.
Merci beaucoup Eva Rock et on vous retrouve tout à l'heure pour votre indispensable musical et merci Bertrand Chameron, on vous retrouve tout à l'heure en terrasse. Dans un instant, notre invité est Charles de Turckheim, mais d'abord musique, Calogero.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Centre-ville, c'était Calogero sur Europe 1. Dans un instant, notre invitée Charlotte de Turckheim pour le dictionnaire de ma vie. Tout est dans le titre, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Charlotte de Turckheim.
Bonjour.
Comédienne, humoriste, réalisatrice, vous avez réalisé 4 films, vous avez fait du One Man Show, Une Journée c'est ma mère le plus célèbre, qui est devenu un film, ou alors dans les films Mince alors, qui a fait plus d'1,5 million d'entrées, la suite est annoncée, vous avez également cartonné en série télé dans Madame le Proviseur. Mais la vôtre actu, qui est une sorte de bilan, même si la route est loin d'être terminée, le dictionnaire de ma vie aux éditions Kero. Il est indiqué en couverture, réalisé par Marina de Baleine. Alors, encore une aristo, c'est pas une petite main de la maison d'édition Kero, c'est votre amie depuis l'âge de 9 ans. C'était quoi l'idée de départ ?
Alors, l'idée de départ, c'est que Marina, qui me connaît donc très bien, me tanne depuis des années, me dit « Oui, il faudrait qu'on écrive un bouquin sur ta vie et tout. » Je me suis dit « Non, Marina, pas grave, un bouquin sur ma vie. Les gens, il faut qu'il y ait un destin pour avoir un... » Et puis, je comprenais pas pourquoi j'étais tellement hostile à ça. Ça m'énervait. J'ai dit non à plein de propositions. Et en fait, j'ai compris. C'est qu'en fait... Marina, elle m'a obligée à sortir de ma zone de confort. Et moi, je dis tout le temps, il se passe jamais rien d'intéressant dans la zone de confort. Et là, en fait, elle m'obligeait à... Et ma zone de confort, moi, c'est l'humour.
Ouais.
Et donc, je peux raconter plein de trucs, faire marrer les gens, en fait, sur des choses très intimes, parce que quand je raconte une journée chez ma mère, c'est un truc vachement intime. Mais comme il y a l'humour, c'est moi, c'est pas moi, ça permet de mettre une distance. Et là, ça m'a obligée, en fait, effectivement, à me déplacer, quoi, et à me livrer. Et alors, j'ai trouvé que c'était un exercice. Au début, j'étais fâchée, parce que c'est vachement difficile de faire la différence entre un truc assez personnel qu'il faut raconter et un truc impudique. C'est-à-dire que les gens qui se livrent trop, qui racontent toute leur life, moi, ça me plaît pas non plus.
Alors, je vais vous rassurer, c'est très personnel. On se connaît depuis des années, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur vous. Et c'est pas non plus impudique, mais quand même, vous racontez l'histoire. Je tombais de ma chaise parfois. C'est pas par ordre chronologique, c'est un dictionnaire. Donc, il y a
Artem.
C comme Coluche, D comme drogue, E comme équitation. Parfois, c'est tiré par les cheveux. J, j'adore les Alpilles, ou Q, qu'il m'inspire. Bon, c'est pas grave.
Parce que c'est vachement dur de trouver des lettres.
Ça ne m'avait pas échappé. J'en viens au C comme Coluche. Il y a une rencontre incroyable. J'ai pas choisi ce thème parce que ça s'est passé à Europe 1, mais quand même, raconter la rencontre avec Coluche.
Ben, en fait, on avait un spectacle qui s'appelle Le Bonbon Magique qui marchait pas du tout. Et donc, on s'est chacun fait une liste dans la troupe de gens à contacter qui pouvaient nous aider. À l'époque, Coluche était une grosse star. Il cartonnait au gymnase et il avait une émission sur Europe qui était une émission phare à Europe. Donc, moi, sur ma liste, il y avait contacté Coluche pour qu'il nous fasse de la pub. Mais on était complètement inconscients. On avait 20 ans. On savait pas du tout comment ça fonctionnait. Donc, je me planque donc j'arrive à Europe. Je rentre en douce je me planque dans le studio en face. À l'époque, il n'y avait pas de vigile, il n'y avait pas de badge et tout ça. Donc, je me planque dans le studio de pub, le petit studio de pub qui était en face. Et puis, j'attends. C'était à 15h, je me souviens. Je me suis dit, bon, j'avais aucune idée de ce que c'était que du direct non plus. Et à 3h15, pile, je me dis, bon, c'est bon, ça a dû démarrer. Je pousse la porte du studio. Et je les arrête puisqu'ils étaient en direct. Donc ils sont tous sidérés. Et j'ai en face de moi, je me souviens très bien, un bureau en arc de cheval, là, comme ça.
En fer à cheval.
De fer à cheval. Et dans lequel il y a Marie, je me souviens, il y a Coluche, il y a deux mecs à sa gauche et à sa droite. J'apprendrai plus tard que c'est Gérard Lanvin. Et donc Michel, Coluche, il est complètement estomaqué. Et il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais là et tout, comment tu t'appelles et tout. Alors moi, j'ai entendu l'enregistrement. Moi, je me trouvais très rock'n'roll. J'étais dans une troupe de théâtre. J'avais l'impression. Puis en fait, j'ai une toute petite voix et tout. Je dis, oui, bonjour, je m'appelle Anne-Charlotte de Turckheim et tout. Alors déjà, il est mort de rire.
Oui, parce que le nom Aristo.
Donc il me dit, c'est quoi ce nom Aristo et tout. Mais tu viens pourquoi? Alors j'ai dit, bah, parce que on a un spectacle vachement bien et tout, mais qui marche pas. Alors on voudrait faire de la pub. Alors il se fout de ma gueule. Il me dit, attends, si on devait faire de la pub à tous les spectacles qui marchent pas, tu me prends pour qui?
Et vous jette. Mais là.
Et il me jette. Et au moment, il se fout de ma gueule, et je comprends, c'est vrai que c'était assez marrant comme truc. Et là, tout d'un coup, moment où moi je suis un peu au bord des larmes et tout, je sais plus quoi dire, là, j'entends le mec qui est à sa gauche, que je ne connais pas, qui lui dit « Non, laisse, elle est de la famille. » Et là, je me dis « Comment ça ?» Alors, la Coluche à l'antenne, il dit « Mais comment ça, elle est de ta famille ?» Et il me dit « Non, mais là, je t'expliquerai. » Et il me dit « Bah, viens, assieds-toi à côté de moi. » Et là,
moi, je vais raconter la suite, parce que c'est tellement long, je vais essayer de résumer. Votre papa, c'est une grande famille aristocrate, il vous a élevé à la bourgeoise, tout le monde bien habillé pareil, les 4 filles habillées pareil. Ça, c'est en 50 quand il rencontre votre mère, et en 68, il pète les plombs, il se casse, il dit tout ce que je vous enseignais, ça vaut rien, il faut vivre par soi-même, il faut se libérer. Il s'est habillé complètement différemment.
Il faut découvrir le monde.
Il quitte femme et enfant, oui. Et il se barre avec sa maîtresse qui s'appelle Jessica.
Et qui est la sœur de Gérard Lanvin. Et en fait, le gars à côté lequel je m'assois, c'est Gérard Lanvin. Et il me dit, je suis la sœur...
Je suis le frère.
Je suis le frère de ta belle-mère, en fait. Donc, je me dis, oh, c'est pas vrai. Gérard Lanvin, en fait, c'est le beau-frère de mon père.
Et le gars qui vous sauve, c'est le frère de la femme que vous détestez le plus au monde. Et c'est un des enseignements de ce livre, Le dictionnaire de ma vie, de Charlotte de Turckheim. On va encore apprendre plein de choses sur vous, parce qu'il y a Hélène Manarino qui arrive. Culture Média continue, c'est le portrait inattendu.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le dictionnaire de ma vie, même si sa vie est loin, loin, loin d'être terminée, c'est signé Charlotte de Turckheim. On va prendre plein de choses encore sur votre vie, Charlotte de Turckheim, avec Hélène Manarino. Bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le portrait inattendu, Hélène, c'est à vous.
Bonjour Charlotte de Turckheim.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, chère Lolotte, vous avez toujours été très douée pour le bricolage. Dès l'âge de 15 ans, vous vous êtes fabriqué un lit pour votre chambre, un lit avec une cloison où vous aviez fait un trou pour arriver directement sur le matelas. Vous avez toujours été une bâtisseuse, finalement, bâtir vos projets, vos engagements, votre vie. Je vous propose ce matin de bâtir votre portrait et d'assembler vos souvenirs et quelques secrets. Restons sur votre jeunesse avec cette maison dans laquelle vous avez grandi, une très jolie façade comme un petit pavillon. Mais à l'intérieur, personne ne se doutait que le plafond ne tenait pas tout seul depuis 4 mois à cause d'un dégât des eaux. Mais peu importe les fondements, votre famille, par exemple, était très solide. Vous avez toujours eu une imagination débordante. C'est grâce à cela d'ailleurs que l'on sculpte ses souvenirs, doué pour la déco. Vous avez toujours aimé les choses très atypiques, très colorées, flashy. Couverture en fausse fourrure orange, meubles bleus, moquette rose, à tel point que le vendeur de cette moquette vous avait dit « Mais je ne la vends jamais pour des particuliers, juste pour des défilés, par exemple. »
Pour la Gay Pride.
Ah oui. Pour la Gay Pride.
Pour la Gay Pride.
Elle est chez vous.
Oui,
la moquette Gay Pride.
Rose fluo.
Super.
Plus précisément, plus récemment, lors de la période de Noël, vous êtes capable de tapisser juste pour une soirée les murs de votre maison couleur argent. Très doué pour la couture aussi. Vous avez fabriqué vous-même votre robe de mariée à 20 ans. Vous ne la trouviez pas assez spectaculaire. Alors vous avez ajouté des mètres de dentelle. Mais cette dentelle était trop blanche. Alors vous avez décidé de la tremper dans du thé. Et ça a marché. Votre terrain de couturière et créatrice ne s'arrête pas là, puisque vous aimiez aussi copier les grands couturiers. Vous emmeniez votre maman dans un magasin d'une grande marque. Elle choisissait sa robe préférée et hop, vous étiez capable de la reproduire. Vous avez fabriqué aussi les costumes de votre première pièce, y compris les chaussures.
Je suis impressionné.
Alors,
la première fois que je vois quelqu'un qui sait faire des chaussures.
Charlotte de Turckheim.
Grâce au BHV.
Une jeunesse qui œuvrait aussi pour la fête, le lâcher-prise, ces booms organisés chez votre meilleure copine, volets fermés pour danser sur les Beatles ou encore Aretha Franklin. Oui, freedom, oui, la liberté, j'ai encore eu un
mauvais accent. J'adore.
Partout.
Meilleur accent de France, Hélène Manarino.
La liberté de jeter des mélanges de paille, papier, eau pour les jeter par la fenêtre, sur les passants. Tout cela créé dans le grenier. Et puis, il y a eu ces tables que vous avez fait tourner en 1968 et ce guéridon qui s'était mis à tourner dans tous les sens pour ensuite tomber dans l'escalier.
Il a trouvé de notre vie.
Moi aussi, ça me fait peur.
Mais comment ça, il a tourné le guéridon?
Je te jure. Un truc, je m'en souviens encore. Il s'est vraiment mis à tourner, mais comme un dingue. Il tapait sur les murs et tout. Moi, j'étais affolée.
Le guéridon. Vous preniez déjà de la drogue à cette époque ou pas?
Mais Charlotte de Turckheim, vos fondations sont solides. Vous aimiez raconter des histoires, marquer les esprits, sans vouloir dire que vous vouliez être comédienne. Pour vous, tout a toujours été possible. D'ailleurs, vous détestez entendre et dire « ce n'est pas possible ».
Ça, c'est vrai.
Une générosité sans limite auprès de tous. Vous avez d'ailleurs participé à une journée dédiée aux femmes de la jungle de Calais.
Vous savez ça, vous ?
Alors, c'est Hélène Manarino.
C'est dingue.
Cette générosité a toujours été là. Quand vous préparez à manger pour 5, il y en a aussi pour 20. Vous avez été la reine de la cocotte minute. Vous faisiez tout avec. Vous aimez cuisiner les œufs brouillés à la truffe, les légumes de votre potager. Alors, vous êtes aussi spécialiste de chili con carne, mais vous avez failli intoxiquer vos invités.
Il fait 800 personnes ce jour-là.
Le chili con carne avait tourné à cause de la chaleur. Il chauffait dans une grande marmite en alu. Mais vous avez pu sauver le plat en ajoutant une tonne de cumin.
De piment.
Intoxication évitée. Et oui, bâtisseuse de l'extrême.
Je sais
finalement
qui a balancé. Marie-Françoise, je sais que c'est toi.
Mais ben non. Dans la construction de votre vie aujourd'hui, il y a vos petites habitudes. Ricorer le matin, la salsa aussi, vous êtes fan de cette danse, vous en faites très bien, vous avez pris des cours, vous êtes même partie à Cuba. Mais surtout grande chanteuse, on le sait, notamment de ça.
les cours de yodel.
Vous savez en faire ?
J'adore. Non, je ne sais plus en faire. Là.
Allez-y.
La, 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 la. En fait, il faut faire. La hi ho, la hi ho, la hi ho, de la hi ho.
Et voilà.
Et voilà.
Et non, c'est impressionnant.
Et on a entendu Mélanie Hoche. Vous aimez instaurer des rituels, notamment avec votre ciment, vos enfants. Quand ils étaient petits, vous organisiez des vacances en camping-car avec les cousins, les amis. Vous avez continué ce petit rituel avec vos petits-enfants. Alors Charlotte de Turckheim, ce qui vous rend plus solide que jamais, on l'a évoqué, oui, votre famille. Et surtout, rassembler toutes les matières premières de votre vie, les membres de votre famille, les amis, notamment aux fêtes de fin d'année, vous organisez toujours une immense tablée. Et à chaque fois, entre Noël et jour de l'an, vous posez à tous la même question. Qu'est-ce que vous vous souhaitez et qu'est-ce que vous souhaitez pour les autres? Une empathie sans limite envers tous, ce qui rend tout ce que vous avez construit encore plus beau.
Oh,
quel beau portrait, oh, quelle
merci,
bonne question.
C'est gentil,
avec plaisir.
Oui, c'est joli. Mais dites donc, alors qui vous a dit tout ça? C'est vachement perso, il y a des trucs que je n'ai jamais dit.
Ouais. J'ai coupé dans mon texte en plus.
Ouais, j'ai du texte, il y a des choses si ça sort.
Mais il n'y a même pas d'essai, c'est même pas dans le bouquin.
Non, ben oui, c'est ça le principe. C'est le principe du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Vous êtes vachement bien renseigné, dites donc.
Merci pour ces compliments, aussi. Charlotte Durkheim. Hélène, je vous dis à demain.
À demain.
Culture Média continue. On va parler de jazz et je sais que ça vous plaît, c'est le retour d'Eva Rock. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Charlotte de Turckheim, le dictionnaire de ma vie, ça vient de sortir chez Kero.
C'est rigolo, tu le prononces à l'alsacienne.
Il faut pas le prononcer comme ça?
Ah bien sûr, en Alsace, c'est Turckheim.
D'accord. Alors dites-moi comment il faut dire. Turckheim, Turckheim.
Tu fais
Turckheim,
comme tu veux. Tu fais comme
Charlotte
tu veux.
Turckheim, j'ai toujours dit comme ça. On ne se tutoie pas dans cette émission parce qu'on marque une petite distance.
Alors Philippe, vous dites comme vous voulez.
Voilà. Vos parents, ils vous disaient vous ou tu?
Tu.
Voilà,
on
parce est quand même chez les grands,
chez les
grands
protestants, dis-tu.
Aristo, et vous écrivez page 135, on parlait de musique, vous dites chez mes parents, il n'y avait pas la télévision, on écoutait seulement de la musique classique et du jazz, mais tendance New Orleans.
Ah oui.
C'est que le banjo.
New Orleans ou Armstrong, ou un peu classique.
D'accord.
Vous voyez.
Voilà, et vous êtes resté au jazz, vous êtes fan de jazz toujours.
Alors, j'aime bien le jazz, mais classique, mais je suis complètement hermétique au jazz moderne.
Ah oui,
au jazz contemporain.
Avec des notes partout et la dodécaphonie.
Je comprends rien du tout, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça ressemble à du bruit.
Ouais. Et les voix?
Les voix quoi?
Les voix chantées, les voix de femmes.
J'adore les voix de femmes chantées, j'adore.
Alors déjà une voix de femme, avant même qu'elle soit chantée, c'est la voix d'Eva Rock qui est de retour.
Oh, oui, mais je suis rassurée, parce qu'on va parler de voix de femme.
Et vous avez pensé à Charlotte de Turckheim.
Oui. Mais oui, exactement Charlotte, parce que donc, Philippe le disait, un chapitre de votre abécédaire est consacré aux livres, aux films et à la musique qui jalonne votre vie. Donc j'ai bien compris que les papas, votre papa et votre maman écoutaient du jazz plutôt classique. Mais vous évoquez aussi votre goût pour des voix comme celle d'Amy Winehouse, par exemple. Ouais. Et puis vous parlez aussi beaucoup de féminisme tout au long de ce livre. Alors j'ai tout mixé. Fermez les yeux et écoutez cette voix.
But while a voice within me cries, I'm sure someone may answer my call.
C'est qui ça?
And this bitter earth.
Bonne question de Charlotte Durkheim, c'est qui ça?
C'est. Elle s'appelle Veronica Swift, c'est une chanteuse américaine de 27 ans.
Magnifique.
Alors elle a été biberonnée au jazz grâce à sa maman qui est chanteuse de jazz et son père pianiste. Elle a commencé à chanter à l'âge de 9 ans, premier album à l'âge de 9 ans, puis un deuxième à l'âge de 13 ans. Elle a chanté notamment aux côtés de Wynton Marsalis. Petite précision, avant de chanter, Veronica Swift savait jouer du piano, de la trompette, elle a également expérimenté l'opéra, le théâtre. Bon voilà. Quant à ses références, ça va de Ella Fitzgerald à Lady Gaga. Et ce nouvel album porte le titre de la chanson que vous venez d'entendre, This Bitter Earth, et interprétée magistralement dans les années 60 par Dinah Washington.
C'est un album de reprise ?
Oui, mais alors autant dire qu'elle maîtrise l'art de la reprise, la preuve avec le standard qui suit, qui fait partie des chansons que j'aime le plus dans la vie, The Man I Love. Vous entendez la maîtrise de la voix
dire,
à l'âge de 27 ans, c'est quand même incroyable,
elle
a une
vie
terrible.
Et la liberté.
chanter. Exactement. Et on dirait que rien ne les gêne, qu'elles peuvent tout chanter.
Exactement.
Toutes les notes
passées. Et voilà, et puis surtout, c'est quand même des chansons qui ont été interprétées par les plus grandes, celle-là notamment par Ella Fitzgerald.
Est-ce qu'elle fait une chanson de yodel?
Non, elle ne fait pas une chanson de yodel. Mais vous allez voir, elle fait une chanson de rock. On va y revenir à la fin. Si j'ai choisi de vous parler de cet album aussi, c'est pas seulement pour le talent de l'artiste, mais parce qu'elle a des messages qu'elle véhicule à travers ses reprises. Veronica Swift s'attaque au sexisme, au racisme, à la xénophobie et aux violences faites aux femmes, avec notamment une chanson très forte qui s'appelle « He Hit Me ».
He hit me and it felt like a kiss. He hit me but it didn't hurt me. He couldn't stand to hear me say that I had been with someone new. And when I had told him I had been untrue.
He hit me, je traduis, il m'a battu. Oui. De quoi parle cette chanson?
Bah, d'une femme qui considère que la violence physique de son conjoint est comme de l'amour, en fait. C'est une chanson de 1962 du groupe The Crystals. Un titre inconfortable à chanter et à écouter, reconnaît Veronica Swift. Et son interprétation, eh bien, elle a très travaillé parce qu'elle voulait qu'elle sonne comme une chanson d'auteur, un peu revendicative, effectivement, et c'est très réussi. Et en fait, à travers cet album, elle avait deux objectifs. Parler de la place des femmes dans la société actuelle et puis parler des mots de notre époque, du racisme aux fake news. Elle y parvient, mais réellement avec un brio, grâce à ses standards du jazz, mais aussi du rock, donc, comme cette reprise de Sing du groupe Dresden Dolls, c'était sorti en 2006.
There's this thing keeping everyone's lungs and lips locked. It is called fear.
Alors, moi, j'écoute cet album en boucle depuis quelques jours. Il s'appelle This Better Earth. Il est signé Veronica Swift. C'est édité chez Mac Avenue. Et je me suis demandé, Charles de Turckheim, quelle musique vous aviez écoutée en écrivant votre livre?
Alors, j'écoute pas de musique.
Pas du tout.
Si j'écoute la musique, oui. Ou j'écoute la musique, je suis pas multitâche. Enfin, je peux pas faire tout en même temps. Mm-hmm. Donc, moi, j'aime écouter de la musique très fort dans ma voiture.
D'accord. Et quand vous travaillez, vous travaillez. Vous êtes dans le silence de vos mots.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup, Eva Rock. On va entendre justement un titre extrait de l'album de Veronica Swift dont vous venez de nous parler. Le titre How Lovely to Be a Woman. Merci beaucoup, Eva.
Merci,
à demain.
Merci, à demain.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
How lovely to be a woman. The wait was well worthwhile. How lovely to wear mascara and smile a woman's smile. How lovely to have a figure that is round instead of flat. Whenever you hear boys whistle, you're what they're whistling at. How wonderful to feel the way a woman feels. It gives you such a glow just to know you're wearing lipstick and heels. How lovely to be a woman and change from boys to men. To go to a fancy nightclub and stay out after 10. How lovely to be all grown up and free. Life's lovely when you're a woman like me. Like me.
Oh, le batteur. How lovely to be a woman, c'était Véronica Swift sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Louise Bernard qui va nous ouvrir les portes d'une exposition immersive.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Charlotte de Turckheim et de Louise Bernard qui nous a rejoint. Bonjour Louise.
Bonjour.
Je vous salue pour tous les gens qui viennent de tomber sur Europe 1 et qui ont bien raison. Parce qu'on va parler d'art contemporain. Ça faisait plus de 6 mois que vous nous proposez des initiatives en ligne autour de l'art, des chaînes YouTube pour le vulgariser, autre proposition. Mais là, c'est nouveau, ça y est, vous nous parlez d'une expo à voir dans un lieu qui vient tout juste de réouvrir ses portes, de rouvrir. Il faut dire rouvrir, pas réouvrir, de rouvrir ses portes hier à Paris.
Oui, c'est... oui, ça y est, enfin, l'Atelier des Lumières, c'est un lieu que j'aime tout particulièrement.
Vous connaissez ?
Parce que...
Bon, dites donc.
Mais... Allez-y.
Mais ça vient de chez moi, ça, bien sûr que je connais. L'Atelier de l'Image a été créé au Beau-de-Provence.
Des Lumières.
Mais chez nous, ça s'appelle la Cathédrale d'Image. Ça change de nom tout le temps. Et c'est né au Beau-de-Provence, dans un endroit incroyable. C'est sur des anciennes carrières de pierre désaffectées. On extrayait des énormes blocs de calcaire. Et donc, du coup, quand ça a été abandonné, c'était gigantesque. Et nous, quand on était petits, on allait jouer là-dedans. Ça nous foutait la trouille. Il y avait des chauves-souris. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un, un génie absolu, qui s'est dit, et si on projetait sur ces immenses murs des photos du sol au plafond. C'est devenu la cathédrale de l'image. Et maintenant, comme vous êtes beaucoup moins branchés que nous, c'est arrivé à Paris. Alors vous découvrez ça, pauvre petit Parisien.
Voilà. Je rappelle le principe de manière très rapide pour les auditeurs qui ne connaissent pas. À Paris, c'est une ancienne fonderie de plus de 3000 mètres carrés qui est devenue un centre d'art numérique. Les immenses murs noirs s'illuminent grâce à une centaine de projecteurs invisibles.
Extraordinaire.
Voilà, et ça permet de s'immerger dans les œuvres d'un artiste.
Du sol au plafond.
Exactement, œuvre retravaillée pour s'animer.
Oui.
Et le visiteur, dont vous devenez une ombre qui erre parmi mille couleurs.
Alors, quel artiste à l'honneur cette fois-ci ?
Alors, c'est une exposition qui est déjà passée chez vous, Charlotte, et qui arrive à Paris, donc. C'est une toute nouvelle qui s'ouvre sur cette chanson.
Tu as déjà été là-bas ? Alors, quand...
Je laisse passer le temps. Pink Floyd, Shannon.
Exactement, vous avez reconnu tout de suite. Ouais. C'est la bande-son choisie pour admirer les créations de l'excentrique Salvador Dali, des centaines d'œuvres numériques, dont ces fameuses montres molles, les portraits de sa muse, Gala, ou encore le visage de Mae West, pouvant être utilisé comme un appartement surréaliste. Et le choix d'une exposition sur Dali, c'était évident pour le directeur de l'Atelier des Lumières, Jacques de Tarragon.
On a ouvert l'Atelier des Lumières en 2018 avec un programme consacré à Klimt, puis à Van Gogh en 2019, Monet, Renoir, Chagall pour l'année 2020. Et donc on voulait s'ouvrir un petit peu plus à un artiste un peu plus original. Dali est dans le surréalisme et voilà, ça ouvre un nouveau volet, de nouvelles perspectives à l'Atelier des Lumières. Dali est un artiste complexe, d'accès, mais on a beaucoup à travailler pour que l'exposition soit visible et appréciée de tous.
Oui, Dali, œuvre exigeante, riche aussi, on découvre ou redécouvre toutes les périodes de sa vie, 60 années de création et toutes les disciplines qu'il a su manier bien au-delà de la peinture. Il y a même des petits films de lui, contrairement aux peintres des précédentes expositions, le tout projeté en musique. Donc, les œuvres surréalistes de Dali se succèdent sur les titres des Pink Floyd, créant un effet quasi hypnotique. Les deux univers se marient très bien et c'est pour cela que le directeur artistique Gianfranco Iannuzzi a choisi les Pink Floyd.
Il n'y a aucune relation... parlant, donc une anecdote qu'il associe, mais les deux, ils ont expérimenté sans cesse, tout le temps. Une dans la musique et le rock progressif qu'ils ont créé, mélangeant du classique, du rock, du blues, un peu de tout, des voix, et Dali, pareil, a tout mélangé dedans. Donc, c'est des icônes un peu du dernier siècle, et je pense que leur association, ça ne fait que les valoriser l'un l'autre.
Dali, c'est la partie la plus longue de l'exposition, 45 minutes, puis c'est une autre création numérique sur une autre icône, Gaudi, l'architecte dont Barcelone est imprégnée de l'œuvre. Là, c'est une explosion de couleurs, de fragments, au rythme des guitares espagnoles. On en prend plein les yeux, notamment grâce aux vitraux de la Sagrada Familia, la basilique de Barcelone. Ce sont deux artistes visionnaires à découvrir à l'Atelier des Lumières à Paris dès maintenant. Réservation obligatoire, vous connaissez comment ça marche maintenant. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 2 janvier 2022.
Réaction, Charlotte ?
Oh mais franchement, c'est unique au monde. Il faut voir ça une fois dans sa vie.
Et même les précédents. On terminera là-dessus.
Tous.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Dernière ligne droite de Culture Média en compagnie de Charlotte de Turckheim. Petite pause et c'est à nous, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Charlotte de Turckheim ou de Turckheim, le dictionnaire de ma vie, c'est un livre très très personnel chez Kero, avec des choses que vous n'avez jamais racontées, des événements de votre vie, vous n'aviez jamais raconté, pardon de dire les choses, de votre IVG, de votre avortement à l'âge de 15 ans seulement.
Oui, c'est vrai que j'en avais pas parlé parce que d'abord c'est assez douloureux, et puis en fait ce qui est incroyable c'est qu'on a un peu honte, on est culpabilisé d'avoir fait ça. Mais quand je vois le rétropédalage sur la condition des femmes dans le monde, et que je vois qu'en Pologne, et que je vois qu'aux États-Unis ça risque d'être interdit, que partout dans le monde...
L'IVG.
Je me suis dit, il faut que je le dise, parce que moi ça m'aurait gâché ma vie. Et donc je considère que c'était un vrai pas en avant de pouvoir se faire avorter, de choisir ce qu'on voulait pour soi-même.
Vous vous êtes rendu compte que vous avez peut-être fait une confidence que vous vouliez pas faire ? Vous aviez 15 ans ?
Oui, j'avais 15 ans.
Parce que vous avez raconté plein de fois l'histoire d'amour que vous avez eue à 15 ans avec Jean-Christophe Cambadélis.
Mais c'était pas lui.
Je me suis dit, si c'est lui, dis non, ça va faire autre affaire. Je suis jamais allé aux Maldives, Charlotte de Turckheim, mais après vous avoir lu, j'ai encore moins envie d'aller aux Maldives. Vous écrivez ceci: dans ce qui fut autrefois un paradis, toute croyance en dehors de l'islam est punie, on y flagelle les femmes adultères, voilà pourquoi j'en parle, et on y pratique la peine de mort à partir de l'âge de 7 ans. Vous avez écrit 7 dans le livre.
Ah, 7 ? Ah oui, ouais. Ça doit être 7 ans.
Voilà. Du coup, j'ai perdu ma question que je voulais dire. Oui, il y a un chapitre qui est consacré à la sexualité. Vous étiez parti pour raconter quelque chose de très joyeux, parce que c'est quelque chose de très joyeux. Et à la fin, ça devient vraiment grave. Vous dites, je m'inquiète pour ce qui arrive.
Ben, je m'inquiète pour ce qui arrive, parce que je trouve qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi la sexualité est à ce point-là tabou, à ce point-là dégoûtant. On voit à la télévision, par exemple, toutes sortes de violences. Les enfants, les jeunes ont accès à une violence incroyable. Mais dès que c'est une scène de sexe, oh là mon Dieu, c'est tabou, c'est affreux. Alors que le sexe, par définition, ne fait de mal à personne et au contraire fait du bien à tout le monde. Si c'est pratiqué entre adultes consentants et de manière plaisante, évidemment.
Et vous relevez aussi cette dichotomie.
Et priver les gens. C'est-à-dire que moi, ce qui me tue aussi, c'est que toutes ces religions, quelles qu'elles soient, privent tous les jeunes de sexualité. Et quand c'est le moment où vous avez 16, 17, 18 ans, vous avez au contraire une montée d'hormones incroyablement forte, si vous ne pouvez pas faire l'amour, si c'est considéré comme tabou, comme dégoûtant, mais ça se transforme en violence. Forcément que ça se transforme en violence. Et oui, je fais partie de ces gens qui pensent que faites l'amour, pas la guerre, mais pas au sens babacool du terme, au sens presque physiologique du terme.
Ouais. Et puis aussi, alors... Vous parlez de drogue, vous racontez comment vous avez pris de la drogue à votre insu quand vous étiez très jeune, on avait mis des produits dans votre verre, ce qui vous a rendu un très 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 mauvais trip, bad trip, mauvaise descente, ce qui vous a rendu claustrophobe pour la suite de vos jours.
Mais encore aujourd'hui, je veux dire, à mon âge, j'ai encore des traces de ce bad trip, puisque je suis incapable de prendre le métro. Et c'est dû à ce jour-là précisément où on m'a mis je ne sais pas quoi dans mon verre qui m'a fait complètement disjoncter.
Et autre réflexion, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle et je vous en remercie. Vous dites, ce qui me surprend, c'est de voir ceux qui se droguent, que ceux qui se droguent sont très souvent concernés par l'écologie.
Mais oui, moi je constate, ça me fait rire, ça me désole en même temps, c'est que les mecs, ils ont tous l'application Yuka quand ils achètent des carottes pour voir si c'est vraiment des carottes, du vrai bio qui vient pas d'Espagne, je sais pas quoi. Mais pour s'acheter, pour avaler des extasies ou pour avaler des drogues de synthèse, il n'y a pas d'application, évidemment. Et alors là, que ce soit fait avec les produits les plus dangereux de la Terre, ça ne les gêne pas. Et donc je me dis, mais en fait, il faut être un peu cohérent quand même dans la vie. Tu ne peux pas à la fois youkatiser tes carottes et décider, si tu veux, de prendre des trucs qui vont te faire disjoncter le cerveau sans savoir ce qu'il y a dedans.
Un mot de votre carrière. Mince alors, film qui avait cartonné en 2012, je vais citer une réplique que j'adore. Les régimes, ça marche pas, il n'y a que les gros qu'en font. Et vous avez fait la suite, et Les Deux Vous, elle vous fait rigoler, mais Les Deux Vous, mais elle date d'il y a 10 ans. Vous avez préparé la suite, Mince alors, La Rechute. C'en est où ? C'est tourné, c'est monté,
alors,
ça va sortir ?
C'est tourné, c'est monté, il est terminé. Et alors, franchement, je ne devrais pas dire ça, mais je kiffe trop ce film.
Ah oui ?
Oh, je suis hyper fière. Je le trouve vachement bien, je le trouve vachement réussi.
Et alors, attention, les personnages ne sont plus des femmes autour de la cinquantaine, comme ce fut le cas dans Mince Alors, mais des ados, c'est bien ça ?
Oui, c'est des ados.
Pourquoi ?
Parce que j'ai été confrontée à ça, moi, dans ma vie privée. Il y a quelques ados autour de moi qui étaient vraiment en surpoids, et je me suis rendu compte que c'était un cauchemar de démarrer sa vie justement sexuelle, sa vie de jeune homme et de jeune femme en étant très gros, et que ça continuait quand même aujourd'hui à être à quelque chose de très douloureux, l'apparence, encore plus peut-être à cause des réseaux sociaux où toutes les filles se mettent à moitié à poil et les garçons ont les muscles et les téléréalités et où les Marseillais, je sais pas quoi, donc l'apparence, ils sont encore plus cons et encore plus refaits, c'est quand même dingue quoi. Et donc ça crée quand même une souffrance énorme chez les ados. Et donc je me suis dit, non, cette fois-ci, ça va être... Alors, il y a aussi des gens plus âgés, mais le cœur du film, c'est vraiment 4 ados.
Ça va sortir quand ?
Eh bien, on ne sait pas, ça, c'est une bonne question.
Ça sortira.
Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire l'ouverture du Festival d'Angoulême.
Formidable. Ça sortira. Quand ça sortira ? Je finirai avec une citation géniale que j'ai trouvée dans votre livre. Elle est de Philippe Meyer. Rappelez-vous, ce sont des professionnels qui ont conçu le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé. Merci beaucoup, Charlotte de Turckheim. Je le rappelle, ce dictionnaire de ma vie, c'est aux éditions Kero. Nous, on se retrouve demain pour Culture Média, à 9h évidemment. On va parler de la deuxième saison de la série policière Astrid et Raphaël sur France 2. Nous serons avec l'actrice Lola Devers et l'acteur et écrivain Hugo Auriot. Et puis, il a été surnommé le plus jeune ténor du monde, Amaury Vassili. Il sera avec nous pour un nouvel album lyrique pop. Juste après le flash, Anne Romanoff, ça fait du bien et je vous dis à demain. Merci encore Charlotte.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.